بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم هو 29 من شهر جمادى الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 6 في قراءة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 30 mars 2014 et ceci est le 6e cours de l'étude de ce livre magnifique, les chapitres dans la vie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم par l'auteur, le grand imam Ibn Kathir رحمه الله تعالى. La veille, nous avons lu le chapitre qui concernait les sévices subis par les musulmans, les sévices, les châtiments, les tortures que les mécréants, les associateurs et polythéistes de Quraysh ont infligés aux musulmans. On a pu voir qu'au début de l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que messager chargé de transmettre aux enfants d'Adam le message d'Allah Azza wa Jal, il s'est opposé à des gens qui avaient l'habitude de l'idolâtrie, d'adorer autre qu'Allah, d'adorer les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a fait naître en eux une animosité, une hostilité à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de tous ceux qui ont cru en lui. Mais cette animosité qu'ils avaient pour le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu faire en sorte qu'il le touche d'un mal, car on a vu qu'il était protégé par son oncle Abu Talib qui était de grande renommée auprès de ce peuple de Quraysh. Par contre, les autres qui n'avaient personne pour les protéger parmi les faibles, les opprimés, ont subi tous ces sévices dont nous avons parlé. Et nous avons vu que la première personne qui a été assassinée parce qu'elle obéissait à Allah et qu'elle se conformait aux ordres d'Allah Azza wa Jal était Soumaïa radiallahu anha, la mère de Ammar. Qui est son mari? Yasir, barakallahu fikum. Ce sont les premiers martyrs de l'islam. Qui est-ce qui l'a tué? Abu Jahl, Amr ibn Hisham, qatalahu Allah. Il a pris une lance et il lui a infligé un coup à ses parties intimes et il lui a percé son corps. Qu'Allah le combatte et combatte les gens comme lui. Ensuite, les musulmans qui ont subi tous ces sévices et toutes ces tortures, qui ont vu toutes ces épreuves des plus difficiles que l'un d'entre nous peut-être serait dans l'incapacité de supporter, ont pris la fuite. Ils ont fui avec leur religion en direction de l'Abyssinie, Al-Habasha, qu'on appelle actuellement l'Éthiopie. Et il y avait entre la Mecque et l'Habasha la mer. Et ils ont fui en bateau, et c'est le chapitre que nous allons voir ici, Inch'Allah Ta'ala. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, dans le chapitre qui concerne l'émigration vers l'Abyssinie, je dis d'abord la partie en arabe et ensuite en français, فَلَمَّا اشْتَدَّ الْبَلَاءُ أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْهِجْرَةِ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَهِيَ فِي غَرْبَيْ مَكَّةِ بين البلدين صحارى السودان والبحر الآخر من اليمن إلى القلزم، فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس، وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. ابن كثير رحمه الله va commencer à parler de cette immigration que l'on appellera الهجرة الأولى, c'est-à-dire la première immigration. Et c'est un événement de la plus haute importance. dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il montre combien les compagnons étaient attachés à leur religion. Il montre combien ils étaient enracinés dans leur foi. Il montre combien ils étaient fermes dans la soumission aux ordres d'Allah et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui les a poussés à fuir ces persécutions dans le but de préserver leur foi, dans le but de préserver leur religion. Ils ont donc pris la direction de l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle. Ibn Kathir rahimahullah a dit: les persécutions redoublant encore, Allah, pureté à lui, autorisa les croyants à émigrer en Abyssinie, qui se trouve à l'ouest de la Mecque, entre le Soudan et la mer Rouge. En arabe, ce qui est cité, c'est Al-Qulzam. Pardon, Naam. Al-Qulzam, le nom qui est cité ici en arabe, ce qui est voulu par le mot Qulzam, c'est le Bahr al-Ahmar, c'est la mer Rouge. Et les Arabes ont appelé la mer Rouge Qulzam en référence à une île ou bien une côte qui est collée à la mer Rouge. Donc ils ont donné le nom Qulzam à la mer Rouge en référence à cette terre qui est collée à la mer Rouge. Mais ce qui est voulu ici, ce n'est pas l'endroit en soi qui s'appelle Qulzam, mais c'est la mer Rouge. C'est pourquoi le traducteur s'est suffi de dire la mer Rouge. Le premier à quitter la Mecque, fuyant avec sa religion vers l'Abyssinie, fut Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, accompagné de Ruqayya, son épouse et fille du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc, nous voyons que les premières personnes ayant émigré de la Mecque en direction de l'Éthiopie font partie des plus émérités parmi les compagnons. Parmi ceux-ci, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, qui deviendra plus tard le troisième calife. Ensuite, son épouse Ruqayya, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Uthman a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, et puis quand Ruqayya décéda, il épousa une autre, Zaynab, si mes souvenirs sont bons, radiyallahu anhu. Ce sont donc les premières personnes qui ont quitté l'Abyssinie, pardon, la Mecque, pour rejoindre l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie. Et cela a eu lieu en l'an 5 de l'envoi en tant que prophète. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait 45 ans. C'est dans cette même année que Soumaïa a été assassiné par Abu Jahl, comme on l'a vu. Suite à ça, ils ont décidé de prendre la fuite. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a orienté ses compagnons vers cette terre qui est l'Abyssinie. Pourquoi ? Car il savait que dans celle-ci se trouvait ce qu'on a appelé le Négus, qui veut dire le roi de l'Abyssinie, dont le véritable nom c'est Ashama. Se trouvait dans cette terre le Négus, qui était de confession chrétienne, il suivait l'évangile, et personne n'était opprimé auprès de lui. Quand quelqu'un vivait là-bas, on ne lui faisait aucun tort, on ne lui faisait aucun mal. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a donc orienté ses compagnons vers l'Abyssinie. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent y pratiquer leur religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. C'est ce qu'on appelle la première hijra. Et le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas quitté la Mecque. Il n'a pas été en Abyssinie. Pourquoi ? Qui répond ? Naam. Parce qu'il était en sécurité sous la protection de son oncle Abu Talib. Et ceux qui ont émigré sont les faibles parmi les premiers croyants. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, les a orientés vers cet endroit. Le nombre des compagnons qui ont fui la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie, il y avait exactement 12 hommes et 4 femmes. Il y avait 12 hommes et 4 femmes. Et on voit ici ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Bada al-islam ghariba wa sayaoud ghariban kama bada fatouba lil-ghuraba. Ce qui veut dire: l'islam a débuté étrange et il redeviendra étrange comme il l'était auparavant. Bonne annonce alors pour les étrangers. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle du fait que quand l'islam a débuté, les gens qui adhéraient à cette religion étaient peu nombreux. On les comptait sur les doigts de la main. Regardez ici, 20 personnes qui quittent la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie. Et quand une personne lit sans méditer, ça paraît pour cette même personne anodin. Mais non, car ces 20 personnes qui ont quitté la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie nous ont enseigné une grande leçon. Ils nous ont enseigné que le croyant doit fuir avec sa religion. Ils nous ont enseigné que le croyant doit tout faire pour protéger sa religion. Et que s'il est dans un endroit où on s'oppose à lui, à son dogme en premier lieu, sa croyance, on s'oppose à son suivi, sa conformité aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, il devra quitter cet endroit. Il devra quitter cet endroit pour rejoindre une autre terre où on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette terre à la base n'est pas musulmane, car ces gens-là ont fui vers l'Abyssinie. Ils n'ont pas été dans un pays qui était musulman, ils ont été dans un pays qui était chrétien. Mais dans ce même pays, on n'allait pas leur causer du tort. Quant à la hijra, le mot hijra lui-même, dans son sens linguistique, il signifie « at-tark ». « At-tark », c'est-à-dire le délaissement. À cet effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Muddathir, l'enveloppé, « War-rujaza fahjur ». Quant aux idoles, délaisse-les, en employant ce mot « uhjur » qui vient de « hijra ». Quant au sens du mot « hijra » dans la religion, الانتقال من بلد الشرك والكفر بالله عز وجل إلى بلد الإسلام لأجل تطبيق الإسلام. C'est le fait de quitter un pays de mécréance ou d'association de polythéisme pour rejoindre un pays d'islam. Tout cela dans le but de préserver sa religion. La hijra fait partie des meilleures adorations. Al-Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala a d'ailleurs cité que cette immigration dont on parle a été citée dans un verset au même titre que la foi et au même titre que la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comment après tout cela mépriser cette adoration immense d'Allah Azza wa Jal. Donc, ses compagnons ont décidé de fuir et ils étaient donc, comme on vient de le dire, 16 personnes. 12 hommes et 4 femmes. Ils étaient donc 12 hommes et 4 femmes. Parmi lesquelles, Uthman ibn Affan et Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi parmi les émigrants Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son histoire dans cette émigration est bien particulière. Pourquoi? Parce que il a quitté la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie. Mais en route, il a rencontré un homme qui s'appelle Ibn ad-Dirin. Ibn ad-Dirin. Ibn ad-Dirin. Cet homme-là était de grande renommée dans le peuple de Quraysh. Et s'il prenait sous sa charge une personne, alors, s'il prenait donc une personne sous sa charge, personne ne l'atteindra du peuple de Quraysh. Il a demandé, après avoir vu Abu Bakr cheminer vers la mer Rouge ou vers l'Abyssinie, « Pourquoi est-ce que tu es sorti? Où vas-tu ?» Abu Bakr, radiallahu anhu, lui a expliqué qu'il est sorti parce que les croyants subissent des persécutions à la Mecque. Ils ont donc décidé de fuir avec leur religion, de préserver les bases, leurs dogmes, de fuir, d'aller vivre dans un endroit où il y aura le moindre mal. Certes, ils ne sont pas musulmans, mais au moins on les laissera appliquer les bases de leur religion. Ibn Dirin s'est étonné et a dit « Comment est-ce qu'on peut exclure une personne comme toi, toi qui accordes l'hospitalité aux pauvres, toi qui aides les besogneux, toi qui es au service de l'autre et qui respecte, comment est-ce qu'on peut te renvoyer de ton pays ? Puis il a pris Abu Bakr avec lui et est retourné à la Mecque pour annoncer au peuple de Mecca, le peuple de Quraysh, qu'il sera désormais sous sa protection. Le peuple de Quraysh a accepté la protection déclarée par Ibn Dirinna pour Abu Bakr, radiallahu anhu, mais ils ont émis une condition. Ils ont dit, on accepte à condition que cet homme, c'est-à-dire Abu Bakr, radiallahu anhu, ne pratique pas sa religion devant les gens. À condition qu'il fasse sa prière et qu'il fasse, qu'il applique ses cultes, qu'il le fasse chez lui. Et qu'il ne le fasse pas devant les gens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les associateurs savaient qu'en vérité, il y avait une saveur dans l'islam. Ils savaient qu'en vérité, si les gens voyaient les musulmans prier, leur façon d'invoquer Allah, ils savaient que s'ils voyaient les musulmans lire le Coran, puis ils écoutaient cette parole, ils allaient adhérer à cette religion, ils allaient l'accepter. Et c'est pourquoi ils faisaient tout pour que les autres ne voient pas ce qu'est l'islam et ne comprennent pas ce qu'est l'islam. C'est exactement la même chose qui est faite au jour d'aujourd'hui par les ennemis de l'islam, qui fournissent les plus grands efforts pour ternir l'image de l'islam afin que les musulmans aient peur de leur propre religion et l'abandonnent. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. On fait tout pour propager ou pour véhiculer une fausse image de l'islam, alors que l'image de l'islam, c'est l'image de celui qui rentre au paradis. C'est l'image de celui qui adore Allah Azza wa Jal. C'est l'image de l'honnêteté. C'est l'image de la véracité. C'est l'image du bon comportement. Ce n'est que ça l'islam. Et regardez qu'est-ce qu'on fait de l'islam. Et c'est la même chose qu'on a fait avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ce qui veut dire, et les gens qui ont mécru dire, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit quand on le récite, ainsi vous les vaincrez. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les musulmans récitaient le Coran, les polythéistes soit mettaient leurs doigts aux oreilles, ou bien ils élevaient leur voix et ils faisaient du bruit afin que les gens présents n'entendent pas le Coran. Pourquoi? Pourquoi est-ce que s'ils savaient que eux étaient dans la vérité, ils avaient besoin de faire ça? Car ils savaient que c'était une vérité qui allait pénétrer les cœurs des gens. Ils savaient que cette vérité allait être acceptée par les gens. C'est pourquoi ils faisaient tout pour que cette vérité soit déformée ou bien inentendue des gens. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu a accepté quand même cette condition. Et il est resté à la Mecque, il a vécu dans sa maison où il s'est réservé un endroit pour adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, et il faisait ses prières, il récitait le Coran qui était révélé. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme on a dit, les gens penchent vers la vérité quand elle est bien démontrée. Abu Bakr radiallahu anhu était chez lui. Et il s'est mis à réciter le Coran plusieurs fois. Et les passants entendaient la belle voix de Abu Bakr. Et sachez qu'Abu Bakr radiallahu anhu récitait le Coran avec méditation. Il récitait le Coran avec la plus belle psalmodie, les plus belles règles de récitation du Coran. Et alors les gens allaient en cachette à côté de la maison de Abu Bakr et tendaient l'oreille au Coran. Et ils avaient l'amour de la récitation de ce livre. Quand le peuple de Quraysh a appris que ces gens-là allaient écouter la récitation du Coran, ils sont allés voir le protecteur d'Abu Bakr, Ibn al-Dirinna, pour lui dire, nous avons accepté que tu le protèges, nous avons émis une condition. Et maintenant, voilà que les gens vont à côté de sa maison pour écouter sa récitation. Et cela ne nous plaît pas, on ne l'accepte pas. Alors, il faut absolument que tu lui dises d'arrêter de faire ces choses-là, ou bien il se passera autre chose. Ibn Dirinna est allé voir Abu Bakr et il lui a dit, voici ce qui m'a été dit. Maintenant, il faut que tu arrêtes cela. Sinon, j'enlève de toi ma protection. Quelle fut la réponse d'Abu Bakr? Abu Bakr lui a dit, radiallahu anhu, il lui a dit, enlève de moi ta protection, car j'ai celle d'Allah à la place. Radiallahu anhu. Allahu Akbar. Et c'est donc ce qui s'est passé, et Allah Azza wa Jal a préservé Abu Bakr radiyallahu anhu. Parmi les premières personnes qui ont émigré parmi les femmes, il y a Layla bint Abi Hathma. Layla, une des premières croyantes qui a émigré, qui a quitté la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie. Layla, la fille de Abu Hathma, c'est l'épouse de Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a. L'imam al-Tabarani, rahimahullah, a cité l'histoire de son émigration. Elle dit, donc je vais vous lire ce qu'elle a dit, « قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا. » Auparavant, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à l'époque où il n'était pas croyant encore, il était un ennemi de l'islam. Il combattait les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Il infligeait des tortures ou des sévices contre ceux qui adhéraient à l'islam. Elle nous dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, faisait partie des gens les plus durs avec nous à cause de notre islam. Partout où il les voyait, il leur faisait mal. Radiallahu anhu. Elle dit, فَلَمَّا تَهَيَّأْنَا لِلْخُرُوجِ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ. Quand nous nous sommes préparés à sortir en direction de la terre de l'Abyssinie, جَاءَنِي عَمَرُ بِنْ الْخَطَّابِ. Est venu à moi Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. وَأَنَا عَلَىٰ بَعِيرِ. Alors que j'étais sur mon chameau. Donc elle est montée sur son chameau et elle a pris la direction de l'Éthiopie. Omar, qui n'était pas encore croyant, mais qui était plutôt ennemi de l'islam, est venu la voir. Il lui a dit, donc elle dit qu'elle est montée sur son chameau, « Uridu an atawajja ». Je suis monté sur mon chameau et je me suis mis en direction de l'Éthiopie. « Faqala aina ya umma abdillah ». Omar m'a dit, « Où vas-tu, ô mère de Abdullah ?» Donc il s'est étonné de voir cette femme qui quitte la Mecque sur un chameau. Où est-ce qu'elle peut bien vouloir aller? C'était une chose étrange pour Omar. Omar lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, où vas-tu? Et elle a dit, فَقَالَتْ أَذَيْتُمُونَ فِي دِينِنَا فَنَذْهَبُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ حَيْثُ لَا نُؤْذَى فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. Elle a dit cette parole qui doit être une éducation pour le croyant. Elle a dit, vous nous avez causé du tort, vous nous avez fait des nuisances dans notre religion, c'est-à-dire vous nous avez fait mal, vous nous avez frappé, violenté, vous nous avez opprimé, vous avez été injuste contre nous. Tout ça parce qu'on a dit qu'il n'y a qu'Allah qui a le droit à l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour notre religion, pour notre croyance, notre dogme, notre foi, notre conviction. Elle dit, nous partons donc alors dans la terre d'Allah, vers un endroit où on ne subira aucune nuisance à cause de notre adoration à Allah, Azza wa Jal. Et elle est partie. Et subhanallah, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui a dit une parole qui n'était pas son habitude. Comme si qu'il a été affecté par cette scène. Alors qu'avant, il était dur contre les musulmans. Mais comme si qu'il a été touché par un peu de pitié, de compassion, pour cette pauvre femme qui fuit la Mecque ou sa terre natale, qui fuit les siens, qui fuit sa vie pour aller dans un endroit qu'elle ne connaît pas, comme si qu'il a été touché, et il lui a dit « Sahibakumullah, qu'Allah vous accompagne. » Subhanallah, c'est un ennemi de l'islam. Mais quand il a vu cette scène, il ne s'est pas empêché de dire « Qu'Allah soit avec vous durant votre voyage, qu'Allah vous accompagne. » Elle a dit, ثم ذهب فجاءني زوجي عامر بن ربيعة. Puis Omar s'en est allé, il est parti, il l'a laissé, il ne l'a pas violenté ou frappé. Et mon époux est venu, son époux c'est Amir ibn Rabi'a. فأخبرته بما رأيت. Je l'ai informé de ce que j'ai vu. Elle a dit à son époux, Omar est venu me voir, il m'a interrogé, je lui ai répondu, et il m'a dit qu'Allah vous accompagne. Et son époux lui a dit, car il a vu en elle qu'elle a été étonnée de cette parole, comme si qu'elle espérait que peut-être que Omar allait se convertir à l'islam par la suite. Alors, son mari lui a dit, « Atardina an yuslim, espères-tu qu'il se convertisse ?» Son mari, lui, il ne pensait pas à ça. Il ne pensait pas que Omar puisse se convertir à l'islam. Et il lui a dit, « Tu crois que Omar va rentrer dans l'islam ?» Sa femme lui a dit, « Faqultu na'am, oui. » Elle lui dit oui. « Faqala wallah, la yuslimu hatta yuslima himar al-khattab. » Et son mari lui a dit, « Par Allah, il n'entrera jamais dans la religion jusqu'à ce que les ânes de son père rentrent dans la religion. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. Il a dit, « Omar ne rentrera dans l'islam que quand les ânes de son père se convertiront à l'islam. » C'est comme si qu'il a voulu dire, « Arrête d'espérer la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. » Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, donc nous lisons en français, le premier à quitter la Mecque, fuyant avec sa religion vers l'Abyssinie, fut Uthman ibn Affan, accompagné de Ruqayya, son épouse et fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les musulmans suivirent son exemple. Tout cela bien sûr, après l'orientation ou le conseil que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, certains affirment qu'Abu Hatib ibn Amr ibn Abd Shams, donc jusqu'à la fin de son nom, ibn Malik, est celui qui ouvrit la voie de l'émigration vers l'Abyssinie. Donc certains ont dit que c'est lui le premier à émigrer. Puis émigrèrent Ja'far ibn Abi Talib et plusieurs groupes de musulmans, qu'Allah les agrée. Si bien que le nombre d'émigrés s'éleva à plus de 80 hommes. Sachez que les musulmans ont émigré deux fois vers l'Éthiopie. Pour l'instant, nous avons parlé de ce qu'on appelle Al-Hijratul Oula, la première émigration. Et à ce moment-là précisément, Ibn Kathir fait référence à la deuxième fois où ils ont quitté la Mecque pour aller en Éthiopie. Donc, ils sont allés... quand les musulmans ont fui la Mecque vers l'Éthiopie, ils sont arrivés sur la plage où il y a la mer Rouge. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, a décrété la présence de bateaux. Et les croyants ont dit à ces gens sur ces bateaux, est-ce que vous pouvez nous emmener en Éthiopie, de l'autre côté? Et les gens ont accepté, ils ont pris les compagnons et les ont emmené pour un demi-dinar. Pour un demi-dinar. Et le dinar, c'était la pièce d'or de l'époque. Pour un demi-dinar, ils sont montés dans ce bateau et ils sont partis en Éthiopie. Ensuite, ils sont allés en Éthiopie et ils s'y sont installés. Ils ont pu y pratiquer leur religion dans la quiétude et la sérénité sans être inquiétés par personne. Puis, une rumeur a été véhiculée disant que les mécréants de Quraysh se sont repentis, ont adhéré à l'islam et il n'y a plus d'hostilité entre eux et le prophète alayhi salat wa salam. Donc cette fausse rumeur qui a été véhiculée a poussé cette vingtaine de compagnons qui a fui la Mecque pour l'Éthiopie à revenir à la Mecque, pensant qu'à la Mecque il n'y a que des croyants maintenant. Chose qu'ils ont faite. Et quand ils sont revenus à la Mecque, il s'est avéré qu'en fait cette rumeur était infondée. Elle était fausse, inventée. C'est alors que les mécréants de Quraysh ont redoublé dans l'injustice à l'encontre des musulmans. Et ils se sont mis à leur faire subir encore plus de maux, encore plus de tortures. Ce qui les a poussés à émigrer une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle Al-Hijratu Thaniya. Ce qu'on appelle la deuxième émigration. Donc ils ont émigré deux fois vers l'Éthiopie. Et à ce moment-là, ils étaient 80. ou un peu plus, comme les savants le disent. Donc en premier, il y avait une vingtaine, ils sont revenus, quand ils se sont aperçus que la rumeur était fausse, ils ont quitté la Mecque une deuxième fois, mais cette fois-ci, leur nombre était plus élevé, ils étaient à peu près 80 ou un peu plus. Ensuite, ils sont arrivés en Abyssinie. Donc nous allons lire la suite. Puis immigrèrent Ja'far ibn Abi Talib et plusieurs groupes de musulmans, qu'Allah les agrée. Si bien que le nombre d'émigrés s'éleva à plus de 80 âmes. Mohammed ibn Ishaq est un grand savant historien, spécialiste de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous allez souvent entendre ce nom. Ce nom est celui d'un homme qui est spécialiste dans la vie du prophète alayhi salat wa sallam. Et les savants qui écrivent dans ce domaine font tout le temps référence à son livre qui est comme une source dans le sujet. Mohammed ibn Ishaq mentionna parmi les hommes qui émigrèrent en Abyssinie Abu Musa al-Ash'ari et Abdullah ibn Qais. Il y a une erreur ici. Abu Musa al-Ash'ari, c'est lui Abdullah ibn Qais. Abu Musa, c'est sa kunya. Ce ne sont pas deux personnes différentes. Naam, c'est une erreur. Le « et » vous le barrez. Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Donc c'est à la page 16, vous barrez le « et ». Car on a l'impression que ce sont deux personnes alors qu'on ne parle ici que d'une personne. Sans que l'on sache vraiment pourquoi. Pourtant, c'est-à-dire, sans que l'on sache vraiment pourquoi est-ce que Mohammed ibn Ishaq, dans son livre sur la biographie, a cité que Abu Musa al-Ash'ari a quitté la Mecque vers l'Abyssinie. Pourquoi ? Car on va voir que Abu Musa al-Ash'ari n'était pas à la Mecque. Il était au Yémen. Et il a quitté le Yémen pour rejoindre l'Abyssinie. Et les savants se sont étonnés donc Ibn Kathir s'est étonné de ce qu'a dit Mohammed ibn Ishaq, qui est connaisseur de la biographie, alors que cet homme, Abu Musa, n'était pas à la Mecque, il était au Yémen. C'est pourquoi ici il dit, pourtant, il est clair qu'il s'agit ici d'une méprise, qui n'échappe d'ailleurs pas même à ceux qui sont moins versés que lui dans la biographie du prophète. Il dit qu'Ibn Ishaq a fait erreur. Ainsi, l'assertion de Mohammed ibn Ishaq fut réfutée par Al-Waqidi, un autre savant dans la biographie, et par d'autres historiens spécialisés dans les expéditions militaires et les conquêtes musulmanes. Selon eux, c'est en provenance du Yémen qu'Abu Musa émigra en Abyssinie auprès de Ja'far, comme Abu Musa le relate lui-même dans un hadith que l'on peut trouver dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim. Nous arrêtons ici. Et donc, après cette deuxième immigration, les koufars de Quraysh ont commencé à craindre que les musulmans se renforcent dans leurs convictions, dans leurs pratiques religieuses. Ils ont commencé à craindre l'accroissement du nombre des musulmans et ils ont commencé à s'inquiéter de leur avenir. Et ils savaient que si les musulmans devenaient plus forts, peut-être qu'ils allaient revenir à la Mecque et la conquérir. Et ils n'avaient pas faux de penser ça. Ils n'avaient pas faux car, qu'est-ce qui s'est passé dans la biographie ? Fath Mecca, la conquête de la Mecque. Ils en étaient certains que cette chose allait arriver. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout fait depuis le début pour que les musulmans restent faibles et ne se renforcent pas. Et ça, c'est exactement ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui. C'est exactement ce que l'on essaye de faire avec les musulmans. Comment est-ce qu'on le fait ? Quand un musulman veut voyager pour s'asseoir chez les savants de l'islam pour étudier, on essaie de lui barrer la route. Quand un musulman essaie de venir à la mosquée pour fréquenter les assises de science comme celle-ci ou autre, on essaie de ternir l'image de cette mosquée ou bien de l'imam de cette mosquée. On essaie de dire de lui ou d'eux qu'ils sont des extrémistes, on essaie de dire qu'ils sont mauvais, on essaie de dire qu'ils sont criminels et d'autres accusations encore. Tout cela dans le but que les musulmans ne se cultivent pas dans leur religion. Pourquoi ? Car si le musulman se cultive dans sa religion, il aura de la répartie, il aura du répondant. Il saura réfuter les ambiguïtés émises par les non-musulmans. Il saura montrer le vrai visage de l'islam. Il saura appeler les gens à l'islam. Et vous pensez que les ennemis de l'islam veulent de nous que l'on propage l'islam correct aux gens ? Ils ne veulent pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font croire aux gens que l'islam est une religion de criminels, une religion d'injustes. Alors que l'islam est venu pour enlever l'injustice et enlever la criminalité. Donc c'est ce que ces gens-là ont décidé de faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour ce faire, ils ont envoyé, comme on va le voir inshallah, ils ont envoyé vers Ashama. Ashama, c'est le prénom du Négus. Le Négus, ça veut dire le roi de l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Ils ont envoyé vers Ashama, le roi de l'Éthiopie, des hommes de la Mecque en possession de cadeaux, oui, qui avaient en leur possession des cadeaux, des cadeaux, des offrandes, pour les offrir à Ashama et ses partisans, tout cela dans le but de les pousser à accepter leur requête par la suite. Quelle est cette requête ? Quelle est cette demande ? Quelle est cette demande ? Naam ? Naam. Ils vont demander à Ashama, le roi de l'Éthiopie, de leur rendre les musulmans. Regardez comment est-ce qu'ils font. Méditez bien. Car dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons avec lesquelles on peut vivre au jour d'aujourd'hui. Ils sont partis lui donner des cadeaux. Ils sont partis lui donner des cadeaux pour, si on peut le dire comme ça, l'endormir. Pour après lui demander, et lui avec ses cadeaux, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour eux, il va accepter. C'est exactement ce qui est fait aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Les chrétiens évangéliques, ou ceux, pardon, non, évangéliques, et ceux qui vont prêcher à leur religion, quand ils vont dans les pays de nos frères en Afrique, même là, certains, peut-être en Afrique du Nord, quand ils vont dans les pays de nos frères en Afrique, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent avec des aumônes, ils viennent avec des cadeaux, ils viennent avec de la nourriture, ils viennent avec des vêtements. Et ces gens qui sont désemparés et qui sont touchés par la faiblesse et la pauvreté reçoivent ces cadeaux et alors leur cœur s'attache à ces gens-là. Et après ça, ils passent à la deuxième étape. Ils les appellent à la chrétienté. Et ça, c'est ce que l'on voit dans cette époque et c'est ce qu'on a vu à toute époque. Et c'est ce que les koufars de Quraysh ont tenté de faire, mais ils ont échoué. Grâce à Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé une partie de Quraysh et ils ont mis à la tête de ces gens-là deux hommes. Le premier, c'est Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, accompagné d'un deuxième. Pourquoi Amr ibn al-As ? Et Amr ibn al-As était à cette époque un mécréant, un polythéiste. Et après, il est devenu un des compagnons les plus émérités. Subhanallah, quand vous méditez sur la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez voir tout au long de cette étude que des gens qui étaient des ennemis de l'islam sont devenus des alliés de l'islam, des secoureurs de l'islam. Et c'est ainsi que doivent être les gens doués de raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Amr ibn al-As ? Car il était connu pour sa sagacité. Il était connu pour sa sagesse et sa manière de s'exprimer très clairement. Il était convaincant dans ses propos. Donc ils ont dit à cet homme-là, ils ont chargé cet homme-là de s'adresser au Négus pour lui demander de rendre aux musulmans, à Quraysh, au peuple de Quraysh, les musulmans qui ont fui l'Abyssinie. Et juste avant d'arriver ici, quand les musulmans ont fui la Mecque pour rejoindre l'Abyssinie, comme nous l'avons dit, ils sont arrivés sur la plage. Ils avaient besoin de bateaux. Et Allah Azza wa Jal, par sa sagesse, a décrété la présence de bateaux pour les emmener en Abyssinie. Une fois que que les musulmans ont quitté la côte et ont rejoint ont vogué vers l'Abyssinie, les koufars sont arrivés. Et dès qu'ils sont arrivés, c'était trop tard, les musulmans étaient partis. Ils n'ont pas pu les atteindre. Alors, ils ont envoyé des gens à la tête desquels ils ont mis Amr ibn al-As pour convaincre le Négus de leur rendre les musulmans. Donc on va d'abord lire ce qu'a dit Ibn Kathir. Ibn Kathir a dit, donc c'est la dernière ligne. Les émigrés musulmans trouvèrent donc refuge au royaume du roi d'Abyssinie, le Négus, nommé As-Hama, qui les honora et les protégea. Donc quand ils sont arrivés en Abyssinie, ils ont trouvé chez lui l'asile, la protection. Mais informés de la sécurité dont jouissaient les émigrés musulmans dans ce pays, les chefs de la tribu Quraysh dépêchèrent sur leur trace deux des leurs, Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As. Donc voici le deuxième, Abdullah ibn Abi Rabi'a, avec des présents pour le Négus. Donc on a expliqué pourquoi avec des cadeaux, avec des présents pour le Négus, dans l'espoir que ce dernier les leur renvoie. Donc ils ont espéré que le Négus prenne ces cadeaux et leur dise: vous êtes mes amis, nous avons une bonne relation, prenez-les, ils viennent de chez vous, vous les connaissez mieux que nous, si vous dites qu'ils sont mauvais, on vous croit, prenez-les, vous êtes nos amis. C'est ce qu'ils ont espéré. Il dit: mais malgré l'intercession des commandants de l'armée du roi d'Abyssinie, que les deux Mécois avaient pu obtenir, le Négus n'accéda pas à leur requête. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La première chose qu'ils ont faite quand ils sont arrivés, ils ont cherché, regardez leur technique, ils ont cherché les gens les plus proches du Négus. Car, de manière générale, en principe, c'est dur d'approcher le roi directement. Et si on peut l'approcher, c'est dur de le convaincre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les ministres. On va aller voir ces ministres pour parler avec eux. Ensuite, eux vont aller voir le roi et le roi va les écouter car eux sont proches de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec beaucoup de cadeaux. Et dans ces cadeaux, il y avait des tissus de la Mecque qui étaient appréciés du Négus. Le Négus aimait beaucoup ses tissus et ses vêtements. Ils en ont pris une grande quantité. Ils sont arrivés chez le Négus et ils ont d'abord commencé à distribuer des cadeaux à tous les ministres du Négus et tous ses proches. Une fois les cadeaux distribués, ils se sont confiés à eux et leur ont dit: voici ce qu'il nous est arrivé. Nous avons des gens qui sont nos proches, qui sont issus de nous. Ils nous ont quittés pour vous rejoindre. Ces gens-là ont une religion innovée. Ils ont insulté nos divinités et leur religion n'a rien à voir avec la nôtre et la vôtre. Ils ne sont pas comme vous. Si seulement vous pouvez parler au Négus et le convaincre de nous les rendre. Et ces gens-là ont accepté. Ils ont tous accepté. Ils ont été endormis par les cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le Négus. Et ils lui ont dit: il y a chez nous des gens qui ont fui la Mecque avec une religion inventée, innovée, qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas celle des habitants de la Mecque. Ils sont donc venus avec une religion nouvelle et des autres personnes de la Mecque sont venues te demander de leur rendre ces musulmans qui ont fui vers toi. Et ils ont essayé, avec des belles paroles, de le duper et de le séduire, de le convaincre. Mais le Négus, qui était intelligent, n'a pas accepté cette demande. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: amenez-moi ces gens-là d'abord, que j'écoute ce qu'ils disent. Amenez-moi ces gens-là, que j'écoute d'abord ce qu'ils disent, et ensuite seulement, je trancherai et je jugerai. Mais on va d'abord terminer la lecture de ce passage. D'abord, je vais la terminer en arabe. Ibn Kathir رحمه الله تعالى أدي وقد ذكر ابن محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وما أدري ما حمله على هذا فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر كما جاء ذلك مصرحا في الصحيح من روايته رضي الله عنه فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون إنه عبد فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى فتلا عليه جعفر سورة كاف هايا عين صاد أي مريم فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم أي آمنون بأرضي من سبكم غرم وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب أي جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما ثم أمر فردت عليهم هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. Donc nous lisons en français. Mais les informés mais malgré l'intercession des commandants de l'armée du roi d'Abyssinie, que les deux Mécois avaient pu obtenir, le Négus n'accéda pas à leur requête. Devant son refus, ils prétendirent que les musulmans prononçaient des paroles très graves contre Issa, puisqu'ils affirmaient qu'il n'était qu'un simple serviteur d'Allah, Azza wa Jal. Donc, ils ont essayé avec les cadeaux. Ils n'ont pas réussi. Le Négus a dit, je veux d'abord les entendre. Ils sont venus. Ils ont parlé. Et alors, le Négus n'a pas accepté. Ils ont dit au Négus, et donc ils ont trouvé une nouvelle stratégie, ils lui ont dit, car Négus est attaché à la chrétienté, il est attaché au prophète Issa alayhi salam, ils lui ont dit, sais-tu ce que ces gens-là disent de Issa? Ils blasphèment contre Issa. Ils insultent Issa. Ils ont essayé. Et alors, le Négus les a appelés et leur a demandé de réciter. Les musulmans, dont le chef était Ja'far ibn Abi Talib, furent donc présentés au roi qui les interrogea en ces termes. Qu'entends-je dire à votre sujet concernant Issa ? Le Négus a rassemblé les musulmans et leur a dit, que dites-vous de Issa ? Et à ce moment-là, les musulmans ont désigné comme interprète ou ambassadeur, si on peut appeler ça comme ça, Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far, c'est le fils de Abu Talib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le frère de Ali et c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, toi, tu parles, parce que lui, il savait s'exprimer, il était convaincant dans ses propos. Ja'far a répondu au Négus en lui récitant la sourate Maryam. Pourquoi ? Qui peut répondre ? Pourquoi est-ce qu'il a récité sourate Maryam ? Parce que dans cette sourate, il y a l'histoire du prophète Issa, alayhi salam. Il y a la description de Issa. Alors il s'est mis à réciter Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, la sourate Maryam. À la fin de la récitation, le Négus ramassa un bâton par terre. Donc le Négus a médité. Il a écouté le Coran. Il n'avait jamais entendu ça. Et il a médité sur le sens des versets. Et il a trouvé que Issa était parfaitement décrit et que ça correspondait exactement à la description de Issa que lui avait dans sa conviction. Il a ramassé un bâton au sol, et il a dit, cet homme n'a rien ajouté à ce que contient la Bible, pas même l'équivalent de ce bâton. Il a ramassé le bâton Et il a dit, cet homme a dit vrai. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, ou dans ce qu'il a dit, il n'a absolument rien rajouté à ce que j'ai lu dans les livres. Pas même l'équivalent de ce bâton. Ensuite, il dit, puis s'adressant aux musulmans, il dit, allez où vous voulez, vous êtes en sécurité sur mes terres, et quiconque vous insultera en paiera le prix. Il a dit, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous ici. Devant qui ? Devant les kofars de la Mecque qui ont tout fait pour convaincre le négus de leur rendre les musulmans. Il a dit, vous êtes en sécurité. Et celui qui vous insulte va en payer le prix. Puis se tournant vers Amr et Abdullah, les deux chefs de la délégation des kofars qui avaient pour but de revenir avec ces musulmans pour les torturer, pour les violenter, il dit, par Allah, même si vous m'offriez une montagne d'or, je ne vous les livrerai pas. Puis il ordonna que leur présent leur soit rendu. Les deux hommes repartirent donc humiliés et frustrés. Il a dit à tous ses ministres et tous les gens qui ont accepté ces cadeaux, rendez-leur tous leurs cadeaux et qu'ils s'en aillent d'ici. Et même s'ils me donnent une montagne d'or, jamais je ne leur rendrai ces gens-là. Et après, ils sont partis. Ils ont donc été obligés de retourner, comme on le dit, bredouille, les mains vides à la Mecque. Ils n'ont pas réussi à réaliser leur ruse et leur stratégie. Et d'ailleurs, sachez que par la suite, le Najashi a adhéré à l'islam et est devenu un des meilleurs croyants. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris sa mort, et lui était à la Mecque ou à Médine, je ne me souviens plus, il a ordonné à ses compagnons d'effectuer en la faveur du négus la prière mortuaire, la janaza, qu'on appelle salat al-ra'ib, la prière de l'absent, qui consiste à prier sur un mort musulman qui est absent et sur lequel personne n'a pu prier. Donc on va prier sur lui malgré son absence, malgré le fait que son corps n'est pas présent. Et c'est ce qui a été fait. Également, le Najashi a été la cause de la conversion à l'islam de Amr ibn As. Amr ibn As, qui était le chef de la délégation de Quraysh, qui est venu récupérer les musulmans. Il est rentré à la Mecque, les mains vides. Après la bataille de l'Ahzab, après la bataille des coalisés, que l'on va voir si Allah nous le permet, inshallah ta'ala, les musulmans ont pris du poids et de l'ampleur. Alors, Amr ibn As a fui vers le Négus. Subhanallah. Il a fui vers l'Éthiopie, comme l'ont fait les premiers musulmans. Et il s'est dit, je reste là-bas et j'attends. Si je vois que les musulmans prennent de l'ampleur, je reste. Sinon, il se passera autre chose. Et quand il a fui vers le Négus, à ce moment-là, et je pense qu'on va le voir, inshallah, le Négus lui a dit de se convertir à l'islam. Et il a adhéré à l'islam, il a rejoint le nombre des musulmans. Et donc je vais, inshallah ta'ala, lire une partie de ce qui a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Sira, l'authentique de la biographie. Livre dans lequel le grand imam al-Albani rahimahullah a réuni tout ce qu'il a jugé authentique en relation avec la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici nous allons lire justement cette histoire, inshallah ta'ala. Cette histoire est citée par Ibn Ishaq et qui a été jugée authentique par Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mais je vais directement la traduire par rapport au temps. Donc, cette histoire nous est rapportée par Ummu Salama. Ummu Salama est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Salama a dit, lorsque les contraintes ont augmenté à la Mecque, et lorsque les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont subi nombreuses nuisances et qu'ils ont été éprouvés dans leur religion, ils ont donc été éprouvés dans leur religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas au début leur apporter le secours. Lui était protégé, mais eux ne l'étaient pas. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, en Éthiopie, il y a un roi chez lequel personne n'est opprimé. Rejoignez-le, allez dans cette terre jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal vous accorde une issue favorable. Alors cette femme dit, nous nous sommes donc dirigés vers l'Éthiopie. Nous nous sommes dirigés vers l'Éthiopie et nous y sommes rassemblés. Nous nous sommes retrouvés dans une bonne terre, c'est-à-dire la terre du Négus, une terre de gens qui leur a donné, accordé hospitalité. Nous étions en sécurité dans notre religion. Nous n'avions peur de personne. Nous ne craignions l'oppression de personne. Elle dit, lorsque les gens de Quraysh ont appris que nous avons rejoint cette terre et que nous nous y sommes réunis pour y appliquer notre religion comme il se doit, ils ont envoyé au Négus une délégation qui avait pour but de nous reprendre pour nous ramener à la Mecque. À la tête de laquelle, donc la tête de la délégation, à la tête de laquelle ils ont mis Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, qui ont apporté des cadeaux et des présents pour les offrir aux ministres et aux partisans du Négus. Ils n'ont laissé aucune personne sans lui offrir un cadeau. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont offert des cadeaux à tout le monde. Comme on dit, ils ont arrosé tout le monde. Ils ont essayé d'arroser tout le monde. Et à chaque fois qu'ils donnaient un cadeau à un des ministres du Négus, ils lui disaient, si seulement tu pouvais parler, seulement tu pouvais intercéder en notre faveur auprès du Négus pour qu'il nous rende les musulmans. Alors, tous les ministres du Négus sont allés le voir et ils ont essayé de lui parler. Chacun a essayé de convaincre à sa manière le Négus. Ces faibles d'esprit ont essayé de le faire. Mais le Négus n'a pas accepté. Le Négus n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc ils sont arrivés avec tous les cadeaux et ils ont dit « Ya ayyuhal malik, ô toi notre roi ». Ils sont arrivés, et d'ailleurs dans d'autres versions, ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont dit « Ô toi le roi ». Il y a des jeunes faibles d'esprit, issus de nous, qui nous ont quittés et qui ont quitté la religion de leur peuple. Ils ne sont pas rentrés dans votre religion. Ils sont arrivés avec une religion innovée que nous ne connaissons pas et que vous-même ne connaissez pas. Et ils ont cherché vers vous le refuge et l'abri. Nous avons donc envoyé des gens dans le but de les ramener. Nous avons envoyé des gens de leur famille, leurs oncles, leurs pères, dans le but de les ramener. Regardez leur façon de parler pour toucher le Négus. Comme si qu'ils essaient de lui dire, nous savons de qui nous parlons, ce sont nos enfants, nos cousins, ce sont les gens de notre peuple, pour que le Négus se dise, en vérité, ils sont plus à même de les connaître que moi, pour qu'ils les rendent. Ils ont tout essayé, en embellissant leurs paroles. Alors, ils ont aussi dit, ils ne vont jamais entrer dans ta religion. Le Négus s'est énervé, et il a dit, non par Allah, je ne vous les rendrai pas jusqu'à ce que j'écoute, jusqu'à ce que je les appelle, les regarde et les écoute ce qu'ils veulent dire. Car ils sont des gens qui ont cherché refuge auprès de moi. Ils ont choisi ma protection, mon voisinage. Si ils sont comme vous dites, je vous les rends. Et s'ils sont autres que ça, je les protège. Puis il dit, donc et s'ils sont autres que ça, je les protège. Et alors, on les a appelés. Il a demandé à les faire venir pour écouter leurs paroles. Ils sont venus. Ja'far ibn Abi Talib est venu pour s'exprimer car il savait être convaincant dans ses paroles. Quand ils sont venus, la première chose, donc dès qu'ils sont arrivés, les gens s'attendaient qu'il se prosterne devant lui, comme tout le monde l'a fait. Les musulmans sont arrivés, ils ne se sont pas prosternés devant lui. Alors il a dit, ayyuha ruhat, ala tuhadithuni malakum la tuhayyuni kama tuhayyini man atana min qawmikum, ô vous le peuple, informez-moi de la raison pour laquelle vous ne me saluez pas comme a salué votre peuple. C'est-à-dire, pourquoi vous ne vous prosternez pas ? Et juste avant ça, il y a plusieurs versions qui sont toutes authentiques. Dans l'autre version, ils lui ont répondu et ils lui ont dit, la nasjudu illa lillah. Nous, on ne se prosterne que devant Allah. Et puis il leur a dit, informez-moi de ce que vous dites sur le prophète Isa. Informez-moi de votre religion. Un ansar antum, êtes-vous des chrétiens ? Non, répondirent-ils. Êtes-vous des juifs ? Non, répondirent-ils. Quelle est donc votre religion ? Ils disent, c'est l'islam. Et lui a dit, qu'est-ce que l'islam ? Eux dirent, na'budullah la nushriku bihi shay'a. Nous adorons Allah et ne lui associons rien du tout. Man ja'akum bihadha ? Lui dit, qui vous est venu avec cette religion ? Et eux ont dit, ja'ana bihi rajulun min anfusina. C'est un homme issu de nous qui est venu avec ça. Nous l'avons vu dans son visage et l'avons reconnu. Allah Azza wa Jal l'a envoyé chez nous. Il l'a envoyé tout comme il a envoyé les autres messagers avant nous. Puis cet homme nous a ordonné d'être bon, de donner l'aumône, d'être loyal, intègre, de respecter le dépôt. Il nous a interdit d'adorer les idoles. Il nous a ordonné de n'adorer qu'Allah seul et sans aucun associé. Nous avons cru à son message. Et nous avons su que son message émane d'Allah et était sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons su que tout ce qu'il venait provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis quand nous avons décidé de le suivre, ces gens-là que tu vois se sont opposés à nous et sont devenus hostiles à nous, ils sont devenus nos ennemis. Ils nous ont fait du mal et ils ont pris en ennemi le prophète véridique. Ils ont réfuté ses paroles. Ils ont réfuté ses paroles et ont voulu le tuer. Ils ont voulu le tuer et ont voulu de nous que l'on adore les idoles. Nous avons décidé de fuir vers toi avec notre religion, notre sang et notre peuple. Cet homme a dit, Wallah, inna hadha la min al mishkat allati kharaja minha amru Musa. Il a dit, par Allah, le message que vous avez sort de la même niche de laquelle est sorti le message du prophète Moussa. Il a dit, Wallah, votre message est le même que le message de Moussa. Donc il a compris que c'était la vérité. Qala Ja'far wa amma at-tahiyya. Et Ja'far a commencé à leur dire, à lui dire, quant au salut, le salut que tu nous as demandé, la prosternation, fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akhbarana anna tahiyyata ahli al-jannah as-salam wa amarana bidhalik fa hayyaynaka billadhi yuhayyi ba'duna ba'dha. Le messager d'Allah nous a informé que la salutation des gens du paradis c'est as-salam, donc assalamu alaykum. Nous avons reçu l'ordre de saluer avec ces paroles et c'est par ces paroles que nous te saluons. Et tout ça, ça a commencé à lui plaire à l'Onégus. وَأَمَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَعَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَابْنُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ. Quant à Isa, le fils de Maryam, c'est le serviteur d'Allah et son messager. C'est la parole qu'Allah a insufflée à Maryam. La parole qu'Allah a insufflée à Maryam quand il a dit kun fakan. Quand il a décidé d'insuffler Isa dans le ventre de Maryam et dire soit pour que Isa devienne. Et il est le fils de Maryam, la femme vierge et pure. Alors, Najashi a pris un bâton et a dit, par Allah, ma wallahi ma zad ibn Maryam ala hadha wazna hadha al-out. Par Allah, il n'a rien à rajouter, ne serait-ce que l'équivalent de ce bâton. Faqala udhama al-habasha wallahi la in sami'ta al-habasha لتخلعنك. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حتى حين رد علي ملكي أو رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. Il s'est mis alors à blâmer les gens de son peuple en leur faisant comprendre qu'il en aucun cas il n'allait rendre les musulmans. Et comment est-ce qu'après avoir entendu le véritable message, il allait accepter la proposition de ces gens-là? Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais nous avons lu une partie de cette histoire. Également dans cette histoire, Ja'far ou les compagnons se sont mis à réciter Surat Maryam. Et quand il a entendu Surat Maryam, il a bel et bien compris et su que ce message est le véritable message et émane d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit, n'eût-ce été le fait que je dois être présent en tant que roi en Abyssinie, j'aurais voyagé jusqu'à Mohammed pour lui embrasser ses pieds. Subhanallah. Un roi de l'empereur de l'Abyssinie qui a entendu des paroles de vérité, il ne s'est pas enflé d'orgueil. Il n'a pas réfuté ses dires. Il n'a pas mécru la parole d'Allah Azza wa Jal, mais il a dit que la seule chose qui m'empêche de quitter l'Abyssinie pour aller embrasser les pieds de cet homme, c'est que je suis le roi et je dois rester ici. Et donc, avec ça, on a terminé l'histoire de l'émigration, des deux émigrations vers l'Abyssinie. Et on reprendra, Inch'Allah, samedi prochain avec un nouveau chapitre. On s'arrête ici. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.